Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Allez, aujourd'hui, dans le programme en français sur Radio SBS, on a le plaisir d'avoir Madame la consule française en Australie, Anne Boyon. Bonjour.
Bonjour Christophe, bonjour à tous les auditeurs francophones et francophiles de SBS.
C'est bon signe de vous voir à Melbourne, ça veut dire que ça va un peu mieux. Bah, vous êtes basée à Sydney, là on se voit à Melbourne.
Tout à fait, je suis basée à Sydney et j'ai sauté dans le premier avion, peut-être pas le premier avion, mais le deuxième, dès l'ouverture de la frontière entre la Nouvelle-Galles du Sud et le Victoria, ce mardi, pour venir rendre visite aux associations de la communauté française à Melbourne et à notre agence consulaire et à notre consul honoraire ici à Melbourne, Myriam Boisbouvier-Willy. Je pense que c'est quelque chose qu'on leur devait après ces mois difficiles qu'a vécu le Victoria.
Alors parlons peu mais parlons bien. C'est vrai qu'il y a eu, vous venez de le dire, des mois difficiles un peu pour tout le monde, particulièrement pour le Victoria. Ça a changé la donne quand même beaucoup entre à la fois les relations entre l'Europe, la France, l'Australie. Alors sans rentrer trop dans les détails, il y a quand même quelques points clés que je voulais dont je voulais qu'on parle aujourd'hui. Les visas vacances-travail, par exemple, c'est vraiment un des enjeux clés, en tout cas pour les Français d'un certain âge. On en est où avec les PVT?
Alors effectivement, une des richesses et une des forces de la relation franco-australienne, c'est ces échanges humains qui ont lieu entre nos deux pays. Et le programme Visa Vacances Travail joue un grand rôle puisque chaque année, la France envoyait près de 24 000 jeunes en Visa Vacances Travail en Australie. L'Australie est un pays très attractif. C'est le second plus attractif pour ces jeunes Français après
presque,
le Canada.
Presque à la mode hein, comme pays.
À la mode. Et donc, bien sûr, la crise a eu un impact sur ces jeunes, puisque depuis 6 mois maintenant, même un peu plus, les frontières extérieures de l'Australie sont fermées. Donc, on n'a plus de renouvellement de ces jeunes visa vacances travail. Mais par contre, on s'est beaucoup intéressé au sort de ceux qui étaient en Australie au mois de mars, au moment où la crise s'est déclenchée, pour essayer de les accompagner le mieux possible.
Quand on parle des gens qui étaient là, des jeunes qui étaient là, si on fait le point un petit peu sur la situation, il y a eu quand même pas mal de jeunes qui ont dû écourter leur séjour. Donc on sait qu'un visa vacances-travail, ça a un certain coût, ça a un certain prix. Et je ne veux pas que vous parliez en lieu et place de l'administration australienne, mais on en est où sur ces jeunes qui ont utilisé que 6 mois d'un visa d'un an ou 3 mois d'un visa d'un an? Est-ce qu'il y a moyen de se faire rembourser? Est-ce qu'ils pourront effectuer ces 9 mois qui restent ou les 6 mois qui restent ultérieurement? On en est où de ces discussions avec l'Australie?
Alors, nous avons ouvert ces discussions avec l'Australie proposant que les jeunes qui n'avaient pas pu mener leur visa vacances-travail jusqu'au bout, qui avaient été contraints de rentrer parce que, par exemple, ils avaient peur de ne plus trouver d'avion après le mois de juin pour rentrer en France, puissent recommencer leur visa ou terminer leur visa vacances-travail et revenir en Australie pour un tarif, on va dire, symbolique. Alors, c'est une proposition qui a été prise en considération par les autorités australiennes, mais aujourd'hui, c'est un petit peu prématuré, à mon avis, de parler de sa mise en œuvre, parce qu'aujourd'hui, on sait que les frontières de l'Australie restent fermées pour des questions sanitaires, et ça peut... Il y a un différentiel important de niveau de circulation du virus en Australie. Aujourd'hui, c'est zéro. Et dans le reste du monde, en particulier en Europe et aux États-Unis. Donc, je veux dire, c'est le choix de la politique sanitaire australienne et on le respecte. Donc, c'est quelque chose qui est pris en considération, mais qui sans doute ne sera, regardé précisément et mis en œuvre qu'au moment où l'Australie rouvrira ses frontières de manière importante au flux de visiteurs, touristes, étudiants, visa vacances travail. Mais c'est quelque chose qui a été repris dans le rapport préliminaire de la commission parlementaire, donc du Parlement fédéral australien, qui s'est penché sur cette question. C'est une proposition qu'a portée le ministère des Affaires étrangères australien dans cette commission, et que nous-mêmes, parce que le consulat général a soumis en fait des observations à cette commission, qui sont publiques d'ailleurs, que nous avons proposées. Mais je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il est important de faire aussi, c'est de se concentrer sur les personnes qui sont restées en Australie, puisque certaines ont pu et ont fait le choix de rester en Australie. Alors bien sûr, les nombres ont diminué, mais ils restent importants.
Justement, est-ce que vous pouvez nous donner des chiffres? Combien il y a de Français aujourd'hui, de jeunes Français qui ont décidé de rester sur ce visa? Est-ce qu'on sait? Est-ce que c'est un chiffre qui est quantifiable?
Oui, on le sait, puisque nous avons une bonne coopération avec le département du Home Affairs australien, qui pendant cette crise, et ça a été une première, nous a régulièrement donné des chiffres pour qu'on puisse bien suivre justement l'évolution de ces communautés françaises qui ne sont pas toujours enregistrées au consulat, parce qu'elles ne sont pas là pour plusieurs années, donc souvent elles ne s'enregistrent pas au consulat, mais on a pu avoir des chiffres. Ces chiffres sont très intéressants. Début mars, on avait entre 36 et 38 000 Français sous visa temporaire, comme disent les Australiens en Australie, une majorité de visa vacances-travail, 16 000, des touristes, bien sûr, et puis des étudiants, environ 3 000, et enfin, bien sûr, des personnes qui sont là dans le cadre de leur spécialité professionnelle, sous visa 482 ou 457. Donc ces populations, bien sûr, elles ont diminué, ce qui est un peu normal puisqu'elles n'ont pas été renouvelées. Donc effectivement, il y avait 16 000 VVT, on va dire, au 15 mars, français en Australie. Aujourd'hui, il n'y en a plus qu'entre 5 et 6 000. Mais on reste le pays européen qui, après le Royaume-Uni, a le plus de jeunes en visa vacances-travail en Australie. Et de notre point de vue, il est important, mais je crois que ça a été fait par un certain nombre d'organismes, notamment par le site pvtist.net, que ces jeunes soient au courant des opportunités qui peuvent exister pour... s'ils souhaitent rester davantage en Australie. Donc il y a bien sûr la fameuse deuxième année de VVT, si on a fait ces 88 jours de ferme.
Toujours en place aujourd'hui.
Ça, c'est toujours en place. Et je crois que le gouvernement australien a aussi donné quelques flexibilités pour que puissent compter pour l'obtention de la deuxième année les travaux réalisés dans le cadre du visa 408 spécial Covid, qui avait été mis en place au moment du Covid pour travailler dans certaines régions, dans certaines exploitations agricoles, éventuellement dans le secteur de la santé, dans les secteurs qui avaient été qualifiés de prioritaires. Donc ça, c'est une opportunité. Aujourd'hui, on voit aussi que bon, y a le marché du travail repart, notamment dans la restauration, puisque les frontières intérieures se rouvrent. Donc il y a sans doute moins de jeunes comme ça sur le marché, donc il y a sans doute des opportunités. Il y a un point intéressant que je voudrais signaler, c'est l'évolution justement pour répondre à cette nouvelle situation du programme volontaire international en entreprise, qui est géré par Business France, donc qui est l'agence de promotion des exportations françaises.
Avec un ancien ambassadeur australien en France, en Australie, à la tête de Business France.
Le directeur général de Business France, c'est Christophe Lecourtier, qui a toujours une tendresse particulière pour l'Australie.
Une très forte cote de popularité en Australie, il faut le noter.
Et donc, Business France a fait évoluer son dispositif justement pour traiter des pays comme l'Australie dont les frontières sont fermées. Donc, ce qui est possible aujourd'hui pour une entreprise française basée en Australie qui souhaite recruter un VIE, elle n'est plus obligée de le recruter en France, puisque il est difficile de le faire venir. Elle peut le recruter sur place. Pour cela, elle doit s'adresser à Business France. Il existe une sorte de bourse, en fait, des profils et des emplois. Je peux vous donner, ou vous pourrez publier sur votre site les coordonnées de la boîte mail et les conditions à remplir. Il faut être âgé de 18 à 28 ans, être déjà en Australie, être de nationalité française, mais pas binationale.
Donc
pas
uniquement.
Voilà, de nationalité française uniquement. Vous pouvez être franco-espagnol, mais vous ne pouvez pas être franco-australien, parce que dans ce cas-là, vous ne rentrez pas dans ce schéma. Donc, vous pouvez envoyer votre CV à sydney@businessfrance.fr. Et surtout, ce qui est très important, c'est de créer votre profil sur le site qui s'appelle cvweb.com. qui est le site du volontariat à l'international, en entreprise et ailleurs, qui est géré depuis la France. D'accord. Et comme ça, les entreprises françaises pourront avoir accès à votre profil, et si vous êtes déjà en Australie, vous êtes susceptible de les intéresser. Il faut savoir que traditionnellement, il y a environ 200 jeunes en volontariat international en entreprise en Australie. Aujourd'hui, puisque bon, il y a un renouvellement qui ne s'est pas fait à cause de la fermeture des frontières, il n'y en a plus que 90. Donc en fait, il y a un vivier à recréer. Donc si vous êtes déjà en Australie, bien sûr, il faut que votre profil, vos diplômes, votre expérience intéressent l'entreprise française, mais il y a des opportunités là à trouver.
Voilà, c'est intéressant parce que ça nous emmène sur un point de... On a beaucoup parlé de crise, on a beaucoup parlé de négativement de tout ce qui s'était passé. Bon, il va falloir relancer cette relation franco-australienne à un moment ou à un autre. Il va falloir... Elle n'est pas partie, cette relation, il va falloir la relancer. Il y aura forcément des opportunités qui vont s'ouvrir.
Bien sûr, je crois que la relation franco-australienne, ça a été dit encore récemment, y compris par notre ambassadeur nouvellement arrivé en Australie, par la nouvelle ambassadrice d'Australie en France. La relation entre la France et l'Australie n'a jamais été aussi forte. Il va y avoir beaucoup... D'abord, il y a une vision, je pense, commune sur les valeurs, sur le multilatéralisme, sur le fait qu'on ne sortira de cette crise sanitaire que par la coopération, que par l'accès universel au vaccin. Donc ça, c'est vraiment des fondamentaux qui sont partagés. Sur le plan économique, je pense qu'il y a un fort intérêt des entreprises françaises pour la relance et la reprise de l'économie en Australie. On voit très bien que c'est un pays qui va sortir de la crise rapidement, peut-être plus rapidement que des pays en Europe. Donc il y a un fort intérêt. Donc je veux dire, les ingrédients du renforcement de la relation franco-australienne sont là. Et bien sûr, il est évident que voilà, il faut que ça profite aussi aux jeunes Français. Il y a des opportunités. Il y a des opportunités aujourd'hui en Australie, puisque l'économie se rouvre, les frontières se rouvrent. Nous aussi, on, aujourd'hui, bien sûr, les frontières sont fermées. On fait avec, on nourrit la relation malgré cette fermeture des frontières. On est à l'écoute des entreprises qui ont besoin de faire venir du personnel pour des besoins particuliers. Mais on sait que les frontières vont se rouvrir, donc on s'y prépare. Par exemple, notamment pour la mobilité étudiante, nous ouvrirons en janvier un bureau des visas pour la France à Melbourne, ce qui évitera aux étudiants australiens ou d'autres nationalités des universités de Melbourne qui souhaitent aller passer un an ou six mois en France, ça leur évitera d'aller à Sydney pour déposer leur demande de visa. Donc on sait que les échanges humains vont reprendre, pas seulement par Zoom, ils vont reprendre physiquement. Et donc on se prépare aussi à cette reprise. On a confiance dans l'avenir et on met en place dès maintenant voilà, les services pour y répondre.
Alors justement, est-ce que ça veut dire qu'au niveau du consulat, parce que bon, il y a beaucoup de pans de la société qui, on peut analyser ça dans une dizaine d'années, on pourra analyser ça comme quoi c'était un moment charnière. Mais est-ce que vous le sentez déjà aujourd'hui dans les rouages de l'ambassade, dans les rouages du consulat, qu'il va falloir changer deux, trois choses, il va falloir s'adapter pour un monde qui va être un petit peu différent à l'après?
Oui, enfin, je pense que nous, on est d'abord là pour effectivement pour rendre service, pour faire en sorte que voilà, que la relation et que les relations humaines soient fluidifiées. Donc ce qui est important, c'est de rester agile. Je pense qu'on l'a été pendant la crise. On est resté ouvert pour la communauté française qui avait besoin de passeports, de s'enregistrer, etc. On n'a jamais fermé nos bureaux, ni à Sydney, ni non plus à Melbourne. Et je voudrais rendre hommage aussi à notre consul honoraire ici et à notre agent consulaire, et ni d'ailleurs nulle part ailleurs dans les autres États d'Australie. Donc on est resté ouvert, open for business. On a été aussi agile. Bien sûr, on a délivré moins de visas, les gens voyageaient moins. Mm-hmm. Mais par exemple, les personnes qui travaillaient habituellement sur les visas, on les a repositionnées pour gérer tout le dispositif d'aide sociale qu'on a mis en place pour les Français en difficulté, notamment les jeunes qui travaillaient dans l'hôtellerie-restauration, par exemple ici dans le Victoria, et qui ont perdu leur emploi au moment du second confinement. Donc on s'est adapté. Je pense qu'il faut... c'est très difficile d'imaginer l'après maintenant. Je pense que voilà, notre philosophie, c'est de rester agile.
Si on parle justement, et là c'est juste pour clarifier les choses, mais c'est vrai qu'on a beaucoup entendu parler du vaccin, on a beaucoup entendu parler du fait que l'Australie décidera pas s'il faut être vacciné pour entrer sur son territoire. L'Australie est souveraine sur son propre territoire. La France a en gros rien à dire là-dedans. Les règles sont comme ça et nous, il faudra simplement qu'on s'adapte.
Je pense que pour l'instant, le différentiel de circulation du virus voilà, entre l'Australie et une grande partie du reste du monde est tel que... De toute façon, on respecte les choix qui sont souverains, qui sont faits par l'Australie pour protéger sa population et les personnes qui résident sur son territoire. Le moment venu, je pense qu'il y en a déjà, mais on est, c'est pas encore si mûr que ça. Il y aura des discussions sur les protocoles sanitaires entre les pays, avec les compagnies aériennes. Il y a déjà des discussions sur des bulles, sur en fait quelles précautions, quelles garanties on peut mettre en place pour qu'on soit sûr que les personnes puissent malgré tout circuler sans faire circuler le virus.
Parce que c'est une des questions aussi des Français qui sont là, en disant bah, « Nous, on a fait tout cet effort à Melbourne, à Sydney, dans le Queensland, aux quatre coins de l'Australie. Bon, on ne veut pas forcément qu'on rouvre trop rapidement et que tout soit gâché, en fait, par l'arrivée. »
Je pense qu'il y a des... Je veux dire, aujourd'hui, l'Australie, à zéro nouveau cas de transmission locale. En fait, les seuls cas sont les cas en quarantaine de personnes donc arrivant de l'étranger. Je pense que c'est effectivement une victoire. Les gens ont hâte de retrouver un mode de vie, notamment au moment des fêtes de Noël. Je pense qu'on est tous conscients que chacun a fait des sacrifices et notamment les communautés expatriées. Qui ont plutôt l'habitude d'aller rendre visite à leur famille en Europe ou à recevoir leur famille pour les fêtes. Donc je crois que tout le monde a fait d'une manière ou d'une autre des sacrifices, mais j'ai l'impression qu'en Australie, il y a quand même un consensus sur l'intérêt d'avoir fait ces sacrifices parce que finalement, ils ont été récompensés. Et de ce point de vue-là, il n'y a pas de différence entre les Australiens, les expatriés qui sont avec des visas, les résidents permanents. Je pense qu'il y a une forte solidarité, il y a une forte adhésion, aux mesures qui ont été prises et qui ont été dans l'ensemble très bien suivies.
Ouais, alors si on parle, on va dévier un petit peu maintenant. On a beaucoup parlé du Covid. 2021, on peut vous souhaiter quoi hors Covid ?
Le chantier qui va vraiment être mené à bien en 2021, ça va être justement l'externalisation de la collecte de la demande de visa qui va permettre aux demandeurs de visa long séjour pour la France de déposer leur demande dans toutes ou presque toutes les villes capitales australiennes. Donc Sydney, c'était déjà le cas, mais Melbourne, mais Brisbane, mais Perth, mais Adelaide. Et donc ça, pour nous, c'est préparer, on va dire, l'avenir... Pas forcément sans Covid, mais avec un Covid maîtrisé pour améliorer les échanges humains.
Le fameux Covid normal. Ouais. Merci.
Merci à vous.
SBS en français. Partagez nos rubriques sur Facebook.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.